48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Et voilà, nous voilà donc en direct sur 48 FM. Donc aujourd'hui, nous avons pour cette 8e édition, 8e magazine, 3 invités. Enfin, ils sont plus nombreux dans le studio, il fait super chaud, hein, n'est-ce pas, Samuel ? Donc nous allons accueillir aujourd'hui Claude Bonnefille, donc, qui est responsable pédagogique au domaine du bec de jeu, qui nous parlera un petit peu éducation à l'environnement, et puis aussi un petit peu d'actualité sur ce qui s'est passé récemment sur ce domaine. Nous accueillerons ensuite le directeur de la structure ciné-théâtre Samuel Le Cabec. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Et ensuite, donc, une jeune chanteuse de 18 ans, Tess, voilà, qui est venue avec, avec Sandy Blanco, qui est son auteur-compositeur. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc nous allons directement commencer par Claude Bonnefille. Monsieur Bonnefille, donc vous êtes, on dit responsable pédagogique, je crois, sur le domaine du bec de jeu.
C'est ça, plutôt responsable.
Plutôt assez responsable, même, je crois.
Très responsable.
Très responsable, très bien. Donc responsable au domaine du bec de jeu, le domaine du bec de jeu, c'est quoi en fait ? C'est quoi comme structure ? Qu'est-ce que vous y faites ? Vous pouvez nous présenter un petit peu votre projet et ce que vous y faites ?
Alors le domaine de bec de jeu est connu en Lozère depuis maintenant 20 ans, puisque c'est une structure qui appartient à la ville de Balsièges, au village de Balsièges, à la commune, mais qui est gérée par la Fédération des œuvres laïques de la Lozère, la Ligue de l'enseignement Fédération de la Lozère depuis 20 ans. C'est donc un centre d'accueil qui a été créé à l'origine pour la majorité des jours d'accueil pour les classes de découverte. Les classes de découverte qui viennent de toute la France, de la région, de la Lozère. C'est la principale activité, c'est l'activité dominante.
D'accord, donc une classe découverte, en fait, c'est un enseignant qui vient avec sa classe de n'importe où en France. Pour passer une semaine, pour quoi faire ?
Alors, c'est une semaine, c'est souvent plus d'une semaine. Il y a de cela 20 ans, c'était des séjours de 18 jours la plupart du temps. C'est des séjours semaines maintenant, mais aussi des fois des séjours juste de 2 nuits, 3 jours. Ils sont en situation de classe avec leur enseignant quand ils ont eu la chance d'avoir pu collecter un budget conséquent. Ils viennent travailler chez nous en priorité sur l'éducation à l'environnement, mais aussi sur les pratiques sportives de pleine nature.
D'accord, donc des activités le matin ou l'après-midi, ça marche comment pour
Des activités, on va dire, presque 24 heures sur 24, puisque l'objectif, c'est d'apprendre, mais aussi d'apprendre à vivre. Donc les activités d'enseignement sont matin et soir, alternance pratique sportive, pratique environnementale, mais aussi sociabilisation et beaucoup de travail entre 17h et 22h sur apprendre à vivre à plusieurs, apprendre à partager, apprendre à gérer et se gérer. Donc c'est une activité très, très longue dans la journée.
Ouais. On a l'impression que c'est un travail un peu sur la citoyenneté aussi. Les enfants, ils sociabilisent, c'est ça ?
La citoyenneté et le respect sont fondamentaux pour qu'une classe de découverte se passe bien. Si on ne prend pas ces thèmes en compte, en ce moment-là, on ne fait que de l'activité et ce n'est pas les meilleurs séjours.
C'est peut-être un petit peu le rôle justement du responsable pédagogique de veiller à tout ça.
C'est le rôle du responsable pédagogique, c'est le rôle de l'enseignant tous les jours dans sa classe. Et quand il vient sur une classe de découverte chez nous ou ailleurs, ces rôles-là sont encore plus amplifiés puisque justement, il n'a pas ses élèves que pendant 6 heures par jour. Et on découvre autrement les élèves quand on les a pendant 5, 6, 10, 14 jours.
D'accord. Et en fait, ce travail, il se fait sur une équipe, je pense, avec une équipe assez conséquente.
C'est sûr. Pour accueillir, comme nous accueillons plus de 140 jours par an des classes de découverte, il faut savoir qu'en classe, les enseignants ont les enfants 138, 140 jours. L'an dernier, nous avons, nous, eu aussi 140 jours d'accueil classe de découverte. Donc pour gérer cela en animation, en hébergement, en restauration, en hygiène, nous sommes une équipe de 12 salariés. 12 plus moi-même, qui est salarié depuis peu, 12 salariés, voilà.
D'accord, sur un, donc sur un espace qui est quand même assez grand. C'est un centre, il me semble, qui a 68 lits, c'est ça ?
68 lits d'accueil maximum. Le centre est grand, il fait 1500 m2 de lieux d'activité, de lieux de restauration et de lieux d'hébergement. Donc c'est un énorme travail, surtout dans un département et dans une région, Bec de Jeux, même si c'est dans la vallée du Lot, c'est un endroit très froid. Donc il faut pouvoir le gérer de manière conséquente au niveau de l'entretien, parce que c'est un bâtiment qui peut souffrir très facilement.
Oui, qui est au pied du Lot, là, des fois, qui a même subi, on dit, quelques déboires de...
Oui, on en est à notre quatrième crue en 20 ans. On espère que cette année sera une année calme par rapport à la météo. On a assez subi d'autres alertes que d'avoir à faire un peu découpage cette année.
Alors c'est aussi un lieu qui accueille d'autres personnes que des enfants en temps de classe et des enseignants. Qu'est-ce que vous y faites aussi ?
Alors, comme je vous disais tout à l'heure, à peu près 140 jours d'accueil classe. Et il reste largement autant, voire plus, puisque l'an dernier, nous avons produit pendant 330 jours, c'est-à-dire que nous sommes fermés en moyenne un dimanche sur deux. C'est donc un lieu qui accueille beaucoup de centres de vacances, sur les grandes vacances, sur les petites vacances. On accueille aussi de la formation, formation adulte, formation jeune, formation citoyenne, environnement, formation sportive, stage de perfectionnement. Et puis nous accueillons aussi nos associations ou des associations qui souhaitent venir passer des séjours détente, des moments statutaires.
Des séminaires.
Nous avons une salle de conférence qui a été créée depuis 3 ans en partenariat avec la commune de Balsiège, qui nous permet d'accueillir des sessions de formation, des séminaires adultes sur des durées plus longues qu'à l'accoutumée, c'est-à-dire de 3 à 5 jours.
Donc c'est un vrai outil départemental pour à la fois l'éducation nationale, les collectivités locales et territoriales, et puis le tout public.
Ben c'est un centre pour tous, puisqu'on est dans une ligue de l'enseignement qui parle de vacances pour tous, de sport pour tous. Donc le centre est pour tout groupe. Je dis bien groupe parce que des fois, il y a des malentendus. Des gens pensent qu'ils peuvent venir de manière individuelle pour réserver des nuitées. Non, nous sommes un centre d'accueil groupe associatif.
Alors moi j'aimerais intervenir sur l'actualité en tant que journaliste, parce que j'ai suivi un peu l'actualité de Bec de Jeux, notamment vos déboires et vos protestations concernant la fermeture du poste d'enseignant MAD sur le centre et les conséquences de cette décision. Mais déjà, j'aimerais savoir, nous expliquer pourquoi ce poste dépend de l'éducation nationale et pourquoi a-t-on décidé de le fermer si l'on tient compte donc de cette activité que vous développez sur ce lieu ?
Alors, quand on dit que le poste dépend de l'éducation nationale, c'est historique. C'est historique parce que ça fait bientôt un demi-siècle que les classes de découverte, que les classes vertes, les classes rousses, les classes de neige ont été décidées par les ministères de l'éducation nationale sur le territoire national. Dès le début, la Lozère a été, un candidat et l'inspection académique de Lozère, candidat et un acteur très très fort dans la logique de classes de découverte. Pour pouvoir les gérer de manière, entre guillemets, constructive et intelligente, il avait donc été nécessaire de missionner des enseignants. C'est pour ça qu'on dit mise à disposition, MAD, pour gérer ces centres, les gérer et les animer. Donc c'est pour cela qu'on peut dire qu'on dépend de l'éducation nationale, que nous avons l'agrément, comme d'autres centres qui n'ont pas d'enseignants, mais qui ont donc l'agrément éducation nationale.
Et quelles sont les explications qu'on vous a données pour la fermeture de ce poste ? Est-ce que c'est quoi ? C'est un choix politique ? C'est une lecture faussée des données ? Pourquoi on ferme un poste qui finalement a fait preuve de son efficacité, de son utilité ?
Alors, il faut remonter quand même maintenant à 4-5 ans, c'est-à-dire que la politique du précédent gouvernement avait décidé de trancher très, très rudement dans tout ce...
Radicalement, oui.
Tout ce qui pouvait s'appeler action éducative périscolaire, avec des enseignants qui n'étaient pas obligatoirement en permanence devant des enfants, ce qui est mon cas, puisque dans le travail que j'effectue au quotidien, il y a du travail de préparation, il y a du travail de démarchage, c'est vrai, de gestion, mais malgré tout, il y a aussi beaucoup de temps d'animation, de pédagogie avec les groupes.
Vous l'estimez à combien ce temps, à peu près ?
Ce temps, comme je vous disais, comme on travaille sur 330 jours, c'est un peu compliqué. J'estime que je travaille à plein temps sur 35 heures semaine auprès des enfants, pour les enfants. Après, bien entendu, il y a un temps de militantisme, puisque nous sommes une association et dans notre association, la Ligue de l'enseignement, tout salarié a aussi une part de bénévolat. Ayant accueilli pendant 140 jours des classes, j'estime qu'il n'y a aucun souci de pouvoir justifier un poste d'enseignant sur ce genre de structure. Le temps pur de pédagogie, c'est une demi-journée par jour d'accueil enfant, on va dire. Parce que vraie pédagogie.
Ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que vous intervenez, en préparant l'émission, que vous disiez que vous intervenez sur les écoles directement, c'est-à-dire que vous allez voir les enseignants dans leur classe, celles qui viennent, que ce soit à Montpellier ou ailleurs. Vous préparez, vous avez un temps de préparation pour que le séjour se passe bien et qu'il n'y ait pas d'anicroche ou de dysfonctionnement.
Bien sûr, la préparation d'un séjour est très longue parce que administrativement, c'est déjà 8 semaines de délai minimum pour qu'une classe ait le droit de venir en ayant constitué un dossier complet aux normes. Je vous passe les détails. Alors, quand nous ne sommes pas trop loin de ce qu'on peut appeler le client, c'est-à-dire le groupe élève, on va préparer en amont avec les enseignants le projet pour que ce projet, du moment où l'enseignant arrive avec sa classe, puisse se dérouler dès le premier jour. Les séjours, comme je vous disais tout à l'heure, étaient très longs à l'époque. Il y a une trentaine d'années, c'était des séjours de 18 jours. Maintenant, quand on vient sur 4 ou 5 jours, on ne peut pas se permettre, vu les frais d'un séjour, vu ce budget, de perdre des demi-journées à préparer, bien entendu. Donc, on prépare en amont, on va réguler aussi des fois. On travaille soit par... Le contact physique est intéressant parce qu'il nous paraît important de connaître l'école physiquement avant d'accueillir les enfants de cette école.
Alors Claude Bonnefy, maintenant que la suppression est actée, qu'attendez-vous de l'éducation nationale aujourd'hui et même des collectivités locales et territoriales et en fait, comment vous voyez l'avenir?
Alors d'abord, on va essayer de pallier à l'urgence. On a essayé jusqu'au bout, jusqu'au 7 septembre, jusqu'au dernier mouvement de la carte scolaire en Lozère. On a essayé de sauver ce poste.
La carte scolaire, il faut expliquer que c'est la répartition des postes sur l'ensemble du territoire, voilà. Du département.
On a donc essayé jusqu'au bout. On a perdu. Ça nous a fait mal. On a réagi. On avait quand même un peu imaginé cette perte de poste. Donc l'urgence, c'est de passer l'année en essayant donc de trouver les milliers d'euros qui correspondent à mon salaire. Donc pour cela, on compte beaucoup sur les collectivités locales et territoriales pour ce passage de l'année 2012 à 2013. C'est un 20e anniversaire un peu dur et le cadeau qu'on nous a fait est un peu empoisonné. Par contre, par rapport à l'éducation nationale, à notre inspection académique, n'ayant pas eu vraiment les bonnes informations pour que notre dossier soit défendable, on va dire, puisque d'autres enseignants, un autre centre, lui, n'a pas vu son poste supprimé.
Au Ventousé, c'est ça ?
Au Ventousé, parce que sûrement que les dossiers avaient été mieux montés ou la communication mieux faite. Donc là-dessus, il est clair que nous avons vraiment les arguments pour pouvoir convaincre au niveau rectoral, ne serait-ce qu'au niveau rectoral, la réouverture de ce poste l'an prochain. Vu le remplissage que nous avons cette année, vu la dynamique et l'enthousiasme de tous les employés, de toute l'équipe de la Ligue de l'enseignement, on passera ce cap cette année. Nous le passerons avec des clients qui sont toujours aussi motivés, aussi nombreux. On est complet jusqu'à fin juin, on va le dire. Mais notre objectif, c'est vraiment de retrouver à la rentrée prochaine le poste.
D'accord, vous y croyez quand même?
Ben, si on n'y croit pas, on arrête.
Bien sûr, oui. Moi, j'ai une question pour Tess, qui est plus près de l'adolescence que de l'âge de Nico. Vous avez participé durant...
J'ai 24 ans, moi. On ne s'entend pas, mais...
Toi, tu remarques. Vous avez participé à des classes de découverte, vous, dans votre adolescence.
Oui,
oui,
oui, au Ventousé, oui.
Au Ventousé, justement.
Ouais. Ah, c'est malin, tiens.
Ah, c'est malin.
Vous pouvez pas aller avec deux jeux.
Ouais. Pendant un an ou deux, ouais, je crois.
C'est intéressant pour des adolescents, justement, de participer à ce genre de vacances.
J'étais pas adolescente, je devais avoir 8-9 ans, donc je m'en rappelle pas vraiment. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant, puis de sortir un peu de la maison, de voir, de partager,
de classe,
faire des activités, de faire des classes comme ça, de faire des trucs en groupe, de découvrir d'autres choses, de faire des sorties. Ouais, c'est quelque chose d'intéressant, je pense.
Là, pour les vacances de Toussaint, Claude Bonnefy, il y a quoi, par exemple, comme activité?
Alors là, c'est l'illustration parfaite de la vie de bec de jeu, puisque nous sommes dans le pur associatif, nous sommes en vacances scolaires. Sur d'autres vacances scolaires, comme février ou Pâques, nous avons aussi des classes de découverte, puisque ce sont des gens d'autres zones. Mais sur Toussaint, c'est spécifique. Il y a un accueil social en relation avec la CAF Lozère sur un mini-séjour sportif pour des petits lozériens, sur la semaine, multisport, découverte multisport. Et nous avons en même temps une session de formation BAFA, sur notre centre avec une quinzaine de jeunes, avec un BAFA base qu'on appelle et un BAFA perfectionnement. La deuxième semaine de nos vacances, c'est un stage de perfectionnement et de cadre UFOLEP escalade sur la deuxième partie de nos vacances. Et on clôturera par un gros week-end d'accueil sur le club de rugby de Mende et sur le comité départemental de rugby. Donc en fait, de la pédagogie en temps scolaire, le maximum, c'est notre priorité. Mais en dehors de ça, un accueil sur toutes les associations qui aiment bien travailler avec nous. Et notamment casser la croûte, puisque c'est vrai que Bec de Jeu a aussi une particularité pour un centre d'accueil, c'est que nous avons encore la chance de pouvoir faire de la restauration traditionnelle avec des produits, le maximum de produits locaux.
C'est que du bio ?
Non, surtout pas que du bio, parce qu'autrement, ce ne serait pas local. Le bio, c'est important, le local, c'est fondamental. Voilà. Donc, on essaie de travailler en priorité avec le local. Et puis, quand il y a du bio, tant mieux, et notamment avec
un ami. Nourriture, quand on dit bio, en fait, on parle de nourriture saine, naturelle, préparée, confectionnée au domaine du Bec de Jeu.
Ça, c'est la priorité, et notamment pour beaucoup de groupes que nous recevons en appel d'offres, l'appel d'offres exige maintenant... très souvent, que ce ne soit pas une structure nationale ou internationale qui envoie les repas de Marseille ou d'ailleurs. Voilà. La liaison froide, pour nous, c'est quelque chose d'aberrant en Lozère. Donc, on travaille encore et avec grand plaisir sur de la restauration traditionnelle, même si au niveau des contrôles vétérinaires et tout, c'est moins simple. Mais tout se passe bien.
Donc, si je suis une classe, par exemple, en Lozère, je peux venir passer une petite semaine à Bec de Jeu. Comment je m'y prends ?
Alors, si vous êtes une classe en Lozère et que vous voulez venir à Bec de Jeu, la semaine, c'est que vous avez une commune très riche. Parce qu'en principe, malheureusement, les Lozérains ont rarement les moyens de bénéficier d'un accueil à Bec de Jeu ou au Ventousé ou à Saint-Élimi sur la semaine.
Et quelques jours
Quelques jours, ouais. Voilà. Alors, il faut contacter le centre très tôt. Comme je vous disais tout à l'heure, le centre est très vite complet. Et puis, selon les désirs, l'effectif, le niveau d'âge des enfants, puisque nous accueillons de 3 ans au niveau CM2, puisque notre particularité, c'est les écoles primaires. On bâtit ensemble le projet, et par rapport à votre budget, avec les motivations que vous avez, soit sur l'environnement, soit sur le sport, on travaillera ensemble pendant les jours, soit en hiver, soit au printemps, soit l'été.
D'accord, mais je crois qu'on a fait un petit peu le tour, légèrement de la question, mais peut-être un appel donc à l'éducation nationale et puis aux collectivités locales de soutenir ce lieu, qui est à la fois un lieu de lien social, de formation pour nos petits d'hommes. Et puis j'espère que l'éducation nationale nous aura entendus pour peut-être revenir sur l'étape de la négociation pour faire en sorte que ce poste réouvre dès septembre 2013, en tout cas je l'espère. On vous remercie, Claude. On vous souhaite beaucoup de travail et dans de bonnes conditions. Merci. On va faire une petite pause musicale maintenant avec Feist, My Moon, My Man. donc nous allons continuer cette émission avec le responsable de la de la ville de Saint-Chély, Samuel Lecavec, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes responsable sur la ville de Saint-Chély d'un nouveau programme qu'on appelle le Ciné-Théâtre. Alors, c'est un programme qui est né quand et qui verra le jour quand exactement.
Alors, il est né il y a quelques mois déjà, de manière plutôt théorique, hein, sur le papier, parce qu'on m'a demandé en fait, de réfléchir à un projet, et de le concevoir et de le mettre en œuvre. Et donc là, j'ai anticipé, je dirais, une préfiguration avant l'ouverture du ciné-théâtre en mettant en place une programmation de spectacles vivants.
D'accord. Donc c'est, et l'objectif, donc, parce que je lisais l'autre jour, donc c'était de maintenir une activité cinématographique en cœur de ville pour l'ensemble du Nord-Lozère. Donc déjà, vous n'êtes pas que sur Saint-Chély, hein, vous essayez de voir un petit peu plus large. Et puis, parce que le bâtiment et les équipements de projection étaient obsolètes, ça, c'était le constat qui avait été fait il y a quelques années. Hein. Et parce que différents besoins culturels frémissaient sur le territoire, les élus ont décidé de lancer un diagnostic sur le positionnement de cet équipement et donc de créer maintenant, du coup, et c'est en cours, je crois, puisque les travaux ont déjà pas mal avancé, hein, un ciné-théâtre. Alors, c'est quoi, en fait, ce concept ?
Alors, ça sera refaire, en fait, une salle de spectacle et un cinéma qui sont dans le même lieu, donc une salle mono-écran et équipée en spectacle vivant, qui va ouvrir au mois d'avril ou au mois de mai. L'idée, c'est de vraiment faire un vrai cinéma et un vrai théâtre à Saint-Chély, mais qui rayonne sur tout le Nord-Lozère. Je dirais, la particularité, c'est que avant, il y avait un cinéma qui s'appelait le Rex,
ouais, qu'on a bien connu, ouais. Moi j'y suis allé plusieurs fois, ouais.
Dans oui, ce petit oui.
Cinéma coincé entre deux magasins.
Oui, alors on a choisi en plus de garder en fait le cinéma en centre-ville, alors que ça aurait été plus simple de le faire
à l'extérieur,
ouais. Hein, il y aurait eu plus de place, une jauge un peu plus grande. Mais bon, c'est vrai que ce cinéma était positionné dans la rue la plus commerçante de Saint-Chély. Et l'idée, c'était d'ouvrir un lieu vivant dans cette ruelle assez fréquentée.
D'accord, d'être au cœur de la cité de Saint-Chély pour éviter que les gens sortent et en même temps puissent aller manger un bout le soir en allant au ciné ou en sortant.
Oui, de garder en fait cet esprit de convivialité, de passage. Mais ça n'empêche pas que peut-être dans quelques années, la question se posera de faire une salle polyvalente, je dirais, une salle culturelle à l'extérieur pour pouvoir accueillir des spectacles un petit peu plus gros.
Il y en a déjà une, non ?
Il y a la salle des fêtes qui est un peu à l'extérieur au Dumalzieux, mais qui commence à dater. Hein, c'était une ancienne discothèque, le Montana, dans laquelle je fais les premiers spectacles. Mais qui nécessiterait quand même un minimum de travaux, voire carrément de la refaire.
D'accord. Alors, je regardais un petit peu cette programmation. Vous affichez entre 15 et 20 spectacles pour la saison. Vous pensez à trois films différents, c'est-à-dire de trois genres, c'est ça ? Trois genres différents par semaine ?
Oui.
C'est une programmation assez ambitieuse pour Saint-Chély.
Alors, ouais, ça, moi, j'ai envie de porter un projet très ambitieux. C'est en tout cas l'ambition moi que j'ai hein, d'offrir un vrai cinéma et un vrai théâtre. Offrir un vrai cinéma, c'est être ouvert 6 jours sur 7 minimum, 52 semaines sur 52, et d'offrir au moins 3 films différents par semaine. 3 films différents dans les genres, dans les nationalités aussi, 3 films qui peuvent toucher en fait des publics différents. Donc les attentes en matière de cinéma sont très différentes. Hein. Il y a des attentes de films grand public, il y a des attentes aussi de films d'art et d'essai, des attentes de films d'animation, des attentes en documentaire. L'idée pour moi, c'est de satisfaire en fait toutes les curiosités et de répondre en fait à l'attente aussi bien d'un très grand film qui va venir qu'une fois dans l'année voir je dirais, le film du moment qui marche et aussi de répondre à l'attente des cinéphiles qui aujourd'hui vont à Marvejols ou vont à Saint-Flour.
Donc là, vous allez être lié quand même avec des maisons de distribution qui vont vous faire des propositions sur l'année et vous faites des réservations, c'est ça ? Ça marche comment, en fait ?
Alors là, donc, en fait, je vais m'engager auprès d'une entente de programmation, une entente nationale de programmation qui s'appelle VO, qui est basée à Lyon et qui a un réseau de 300 salles en France. 300 salles, ça permet en fait de mutualiser en fait les coûts de distribution, ça permet de mutualiser les copies et en fait de penser à une circulation. L'idée pour moi, c'est d'avoir choisi une entente qui corresponde à des petites villes, mais qui peuvent offrir autant un cinéma commercial qu'un cinéma de qualité. Et donc, moi, je leur ai proposé un cahier des charges qu'ils ont accepté. Et donc, je vais travailler comme certains de mes confrères en cinéma qui ont une entente et qui leur permet en fait d'offrir une qualité cinématographique à l'année.
D'accord. Concrètement, on va avoir des films d'auteur avec des films populaires. C'est quoi, c'est ce mélange que vous voulez proposer ?
Ouais, c'est vraiment le grand écart que je veux faire, aussi bien dans la partie cinématographique que la partie spectacle vivant. Le but pour moi, c'est en offrant le maximum de diversité, je réponds en fait à toutes les attentes et je montre aussi que le spectacle vivant et le cinéma sont multiples, hein, sont des arts multiples avec des projets portés par des créateurs, tournés soit vers le commercial, soit vers la création. Et en montrant la diversité, je réponds aussi à cette exception culturelle qui est très forte.
Nord-Lozère.
En Lozère. En Lozère.
Exception culturelle Nord-Lozère, il faudra qu'on en reparle.
Attention, on est entouré de barabans là maintenant. Claude est parti.
C'est vrai, ouais. Le barabans. Et bien justement, comme on le voit, ce projet, c'est quand même une articulation entre un fonctionnement d'un cinéma et celui d'une salle de spectacle. Ce que je ne vois pas, c'est comment vous allez arriver à jongler entre les deux. Dans une semaine, par exemple, vous auriez un spectacle, il y a quand même des temps d'installation, de répétition, s'il y a des créations, et il y aura aussi du cinéma, donc ça va être un peu compliqué à gérer.
Ouais, ça va être très compliqué, très très compliqué. C'est vrai que je travaille beaucoup sur les plannings. Alors, le problème, c'est que rentrer dans l'industrie cinématographique, ça veut dire accepter les contraintes des distributeurs, ouais. C'est-à-dire avoir, par exemple, le dernier James Bond sur 8 séances minimum dans la semaine. Donc, les 8 séances, il faut les caser. Sauf que, comme j'ai encore 2 films à l'affiche, eh ben, ça me fait un minimum de 15 séances. Alors, certaines semaines.
Vous en mettez 8 par jour ? Sur 2 jours, et le reste de la semaine pour le spectacle.
Oui, alors...
C'est vrai que ça va être compliqué.
Ça va être très compliqué, ouais. Très très compliqué, mais ça implique aussi un travail rigoureux de notre part, une organisation, et aussi ça va m'obliger en fait à trouver des spectacles qui nécessitent en fait peu de temps de montage, et donc automatiquement ça va toucher à la programmation de spectacles vivants.
Donc ce sera un peu au détriment du spectacle.
Ça sera un petit peu au détriment des temps de montage de certains spectacles. Je sais que certains spectacles, je ne pourrais pas les accueillir. Donc je fais une croix dessus. Je me dis qu'il y a Marvejol, il y a la saison culturelle de Mende, il y a Langogne. Voilà, je travaille aussi en réseau. Mais c'est
aussi des contraintes à donner peut-être aussi aux artistes en disant écoutez, vous avez au lieu d'avoir 2 services, vous avez un service de montage, c'est-à-dire 4 heures. Et puis moi, je peux vous proposer que ça, quoi. Et il y en a qui s'adaptent aussi, non ?
Oui, il y en a qui s'adaptent. Le minimum, c'est quand même 2 services. C'est vrai que 3 services de montage, c'est-à-dire 3 fois 4 heures de montage, là, ça devient très difficile pour moi. Coincer. Alors ça implique aussi que les créations, les résidences ne se feront pas au ciné-théâtre, mais se feront soit à la salle des fêtes, soit ailleurs.
Avec d'autres partenaires.
Oui, avec d'autres partenaires, comme le Petit Théâtre par exemple, ou alors le Lycée Sacré-Cœur qui a aussi une salle. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est pas facile. Et ça n'a pas été facile aussi dans le choix du régisseur. Donc là, j'ai trouvé quelqu'un qui va venir à partir du mois de février. Donc un jeune régisseur donc qui est formé pour le spectacle vivant, mais que j'envoie prématurément en formation.
De projectionniste, c'est ça ?
Formation de projectionniste, pour qu'il ait les 2 casquettes et sache faire fonctionner en fait, les 2 activités en même temps.
Alors si on revient un peu plus maintenant sur la capacité d'accueil de cette salle, vous parliez de 2 jauges. Bon, c'est capacité d'accueil, c'est ça, c'est le nombre de spectateurs qu'on peut accueillir. Pour le ciné, c'est prévu combien ?
Alors,
combien de places ?
La jauge est de 160 places. Elle est de 155 pour le spectacle vivant, parce que la régie, en fait, la régie technique se fera
dans la salle,
au fond, donc ça m'enlèvera 5 places.
Et après, vous avez un plateau de combien? Donc le plateau, c'est la partie nécessaire à l'installation du spectacle. Ça fera quoi?
Le plateau fera 8 mètres d'ouverture sur 5,75 de profondeur, sur plus de 6 mètres de hauteur, avec la possibilité d'avoir un proscénium d'un mètre qui permet d'avoir une profondeur d'au moins 6 mètres 70. Ce qui est assez correct,
oui, ce qui est
pour
pas mal,
les petites ouais. formes.
Ouais. Ça fait penser un petit peu aux conditions techniques de la salle de l'espace des anges à Mende, qui est à peu près dans ce format-là.
Oui, c'est ce format-là. Oui.
Un petit peu plus haut, mais globalement, c'est ça. Ouais.
Ouais, oui.
D'accord.
Donc, ça sera un petit théâtre à l'italienne, en fait, avec un balcon d'une trentaine de places et 130 places au parterre, avec un dénivelé de 7%.
D'accord. Donc, pour pouvoir voir passer au-dessus de la tête de son voisin.
Voilà, c'était les contraintes imposées par la commission technique de sécurité du cinéma.
D'accord, oui, parce que vous êtes parti donc des contraintes techniques du cinéma pour aller vers le spectacle vivant ou vous avez jonglé avec les deux?
Non,
vous êtes
parti. On est d'abord parti sur les contraintes liées à l'homologation des salles de cinéma qui nous a imposé certaines distances, certaines cotes et ensuite on les a un petit peu adaptées au spectacle vivant.
Et vous avez un plateau technique aussi, c'est-à-dire un équipement scénique, je pense, avec Pendrillon.
Oui,
avec,
on a un très bel équipement scénique. Donc, on a 11 perches motorisées donc sur un théâtre de poche, ce qui est très bien. Donc, un bon parc de matériel lumière, deux parcs de matériel son, l'un pour le cinéma et l'autre pour le spectacle vivant, des Pendrillons. Voilà, enfin, on a une belle petite machine pour ce petit théâtre de poche, oui.
Alors, tous les deux, on ne comprend absolument rien à votre dialecte, les services, les perches, les...
Ouais, mais il faut se former, mon grand.
Hein. Ouais, je vois ça. Tess doit connaître.
Plus ou moins.
Ça va, je ne suis pas seul.
Ouais, ça fera la transition de tout à l'heure, parce que nous avons aussi dans ce studio aujourd'hui une future chanteuse qui, voilà, peut-être sera sur les planches du petit théâtre à Saint-Chélie.
Du grand théâtre même.
Ce futur théâtre.
Faire attention, parce qu'il y a un petit théâtre, mais qui n'est pas au même endroit.
Ah, exact. Ouais. C'est peut-être une de nos questions tout à l'heure. Mais bon. Peut-être revenir sur justement ces fameux bars à bancs, hein, dont tu parlais tout à l'heure, Ludo.
C'est vrai que. Chers amis.
Est-ce que la fréquentation est. Est-ce que vous pensez que nos amis bars à bancs vont être séduits par cette proposition et seront amenés à sortir avec la programmation.
Les bars à bancs, voire plus loin, parce que c'est vrai qu'il y a toute la région Saint-Florent, tout ça, bien que Saint-Flour est aussi une salle de ciné qui fasse théâtre. Mais peut-être les bars à bancs, et voire plus loin, les gens de Sog, etc. Est-ce qu'on peut réussir à les attirer à Saint-Chély?
Oui, alors moi je table en fait sur, à terme sur 23 000 entrées. 23 000 entrées, cinéma, théâtre. Alors c'est assez ambitieux, mais en fait j'y crois. J'ai quand même fait des études de marché. J'ai regardé aussi les chiffres de Camille Jourdan, l'ancien exploitant du cinéma. Je me dis qu'avec la programmation que je vais offrir, la qualité, les conditions techniques aussi, les conditions de confort pour les spectateurs, une équipe qui sera derrière moi, on sera quand même 5 à travailler dans ce cinéma-théâtre, dont quelqu'un aux relations publiques et quelqu'un à la communication, je me dis qu'on va y arriver.
Voilà. Oui, il n'y a pas de raison.
Alors après, c'est sûr que ça ne va pas être facile, parce que c'est vrai que Saint-Chély, c'est en montagne. Là, ce week-end, il neigeait. Je pense que beaucoup de gens n'osent pas trop sortir le soir, parfois. Mais bon, au moins, c'est. Mais au-delà de ça, je crois que c'est offrir un service culturel de qualité, cinématographique et de spectacle vivant, à l'année, dans une ville qui en a besoin et qui le mérite. Saint-Chély, c'est 6 000 habitants. Aumont, Le Malzieu, Saint-Alban, juste à côté, on arrive quasiment à 10 000 habitants. C'est quand même une agglomération qui doit avoir un cinéma-théâtre.
Et même on peut tirer jusqu'à Schotzeg, parce qu'on voit que les bars à bancs des fois vont aller du moins à l'époque à Schotzeg pour des sorties culturelles, donc pourquoi pas attirer les personnes la population de cette région à Saint-Chély.
Oui, le sud Cantal.
Et vous pensez mettre en place justement, en parlant de ça, des publics qui sont un petit peu éloignés de cette salle, des transports ou des moyens de transport pour permettre l'accès aux œuvres?
Non, moi je pense pas en faire.
D'accord, c'est pas une...
Non, c'est pas une ambition pour l'instant.
D'accord. Oui. L'autopartage
Non, mais je crois qu'il y a des, il y a une association en Lozère qui
de covoiturage.
De covoiturage, oui. Mais pour l'instant, c'est vrai que j'avance pas à pas. Et il y a des chantiers.
Oui, il y a peut-être beaucoup de choses aujourd'hui sur lesquelles vous êtes et qui fait que ce sera peut-être subalterne, en tout cas dans une deuxième phase.
Oui,
on,
oui.
On sait que sur Saint-Chély, les gens ne sortent pas forcément de, en quantité. C'est-à-dire, il y avait des propositions, notamment par le Centre culturel et loisirs. Est-ce que vous entretenez aujourd'hui des relations avec cette association? Et à terme, est-ce que vous voulez associer les autres associations départementales? Vous avez parlé du petit théâtre, donc je crois que c'est le Centre culturel loisirs qui tient ça et qui a une petite programmation. Et comment voulez-vous faire avec les autres partenaires et les autres acteurs culturels du département?
En fait, là, j'ai commencé à faire une première programmation spectacle vivant. Donc, j'ai associé quelques partenaires associatifs locaux et quelques partenaires culturels du département. Les partenaires culturels associatifs locaux, il y a la Société musicale de Haute-Lozère, l'Étoile Barabande pour la danse, le CCL sur deux spectacles, et puis les partenaires culturels départementaux, Scène croisée de Lozère, et régionaux, Languedoc-Roussillon Cinéma, et puis le Pôle national des arts du cirque, la Verrerie d'Alès. Donc en fait, qui m'aide en fait à construire une programmation la plus éclectique possible.
D'accord. Et donc cette programmation, puisqu'on y vient, vous avez quoi à l'affiche? Enfin, vos coups de cœur principaux ou...
Oui, on ne va pas tout énumérer, mais peut-être quelques idées, justement.
Oui, donc je crois qu'un de mes coups de cœur, ça a été Le Manipulateur par Luc Appers, qui est un magicien, comédien flamand. J'ai beaucoup aimé en fait ce spectacle quand je l'ai vu. Bon esprit, beaucoup de générosité, un vrai plaisir partagé autant par l'artiste que par les spectateurs.
Et en ça fait, raconte quoi, ce manipulateur? Parce que là, vous me faites peur. Hein. Si vous voulez manipuler les barbants?
Non, non. En fait,
ça se manipule pas un barbant. Attention.
Oui, oui. C'est en fait un magicien qui raconte sa vie. Ce personnage de Paul Kress qui petit commençait à faire de la magie et puis adolescent aussi, puis un jour il est tombé amoureux d'une jeune femme, mais voilà, la virtuosité, le succès aidant, il a préféré sacrifier sa vie amoureuse à sa vie professionnelle. Et puis, en fait, ce personnage, à l'aube de sa vie, considère qu'il a peut-être raté quelque chose, il a peut-être raté une belle histoire d'amour. Et en fait, pendant tout ce spectacle, il se met à chercher sa bien-aimée au travers des cartes. Et donc, bien sûr, la carte qu'il cherche avec le public, c'est la Dame de cœur. Voilà, donc c'est un beau spectacle que j'ai vu au Festival Avignon. Hein. Ouais. Et c'est très touchant, c'est sincère. Il y a une très belle dextérité en matière de magie également.
Manipulation.
Oui, de manipulation des cartes. Donc voilà, ça, c'est un spectacle un peu coup de cœur, tout public.
Donc de la magie, vous parlez de la Verrerie d'Alès, donc du Pôle Cirque. Donc j'imagine aussi peut-être spectacle autour du cirque, en tout cas.
Oui, j'ai deux propositions cirque avec la Verrerie d'Alès. L'une qui s'appelle Poste, c'est fin novembre, c'est vraiment du jonglage chorégraphié, c'est un spectacle que j'ai vu à Clermont-Ferrand, à sa création, et alors c'est une proposition assez moderne, assez poétique, assez onirique, mais avec pareil une dextérité, une prouesse technique et une prouesse physique des deux jongleurs, avec de très beaux éclairages. Et c'est une proposition qui est un peu différente de toutes celles que j'ai programmées et qui avait sa place aussi dans cet éclectisme. Et puis une autre création que j'accueille, c'est l'Instant K de la compagnie d'Araumaï, compagnie catalane donc, de cirque, tout public. Donc là, c'est plutôt un spectacle enfant-parent autour des personnages... d'un livre de Michael Haneke qui est un
réalisateur
allemand et en fait qui avait écrit des livres sur une petite fille qui s'appelait Momo et l'histoire du temps. C'est un livre très connu des jeunes allemands, très peu connu en France, Mais ce spectacle, en fait, va remettre en selle, je dirais, certains des personnages de ce livre de littérature jeunesse.
D'accord, chez nous, c'était Toto, hein, mais là, si c'est Momo...
C'est en allemand.
Ah oui, c'est en allemand. Momo.
C'est ça.
Eh bien, merci beaucoup, en tout cas. Peut-être dire où est-ce qu'on peut trouver votre programme aujourd'hui ?
Alors, le programme, en fait, il se trouve en mairie ou à l'office de tourisme de Saint-Chély.
Sinon, on peut se le procurer sur le site en téléchargement.
Sur le site internet en téléchargement ou alors...
Le site, c'est ?
C'est www.saintchellydapcher.fr.
Ah, tout se tient.
Voilà, tout se tient, oui. Ou sinon, en appelant directement à l'office de tourisme ou à la mairie.
Voilà. Alors, cette saison démarre quand ?
Donc, elle a démarré vendredi 14 octobre avec Jacques Do, son spectacle Millimélo. Donc, on a fait cette ouverture de saison. Donc, il y avait 150 personnes, hein, un spectacle autour des chansons de Bobby Lapointe.
Les Barabans étaient au rendez-vous ?
Oui, ils étaient au rendez-vous.
C'est bien. Voilà, c'est super. En tout cas, nous, on trouve l'idée magnifique. On espère que cette salle va donner un coup de fouet à l'activité culturelle. C'est vrai qu'elle était un petit peu...
morose.
Ça n'engage que Ludo.
J'ai vécu 10 ans, c'est pour ça que je peux me permettre.
Peut-être, effectivement. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'installations techniques. On a besoin de projets, en tout cas, portés par les gens. Mais il n'y a pas que les projets. Il y a aussi quand même 5 emplois qui sont créés. C'est une grosse machine. C'est quand même pas anodin de mettre beaucoup d'argent là. Dans la culture, en tout cas, je crois que dans des périodes moroses aujourd'hui, la culture est vraiment un projet de lien social, en tout cas participe à l'effervescence, à l'accueil sur les territoires, à la qualité de vie sur ces territoires qui sont un petit peu excentrés. Et en tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage et on sera bien sûr à cette antenne, toujours à votre écoute pour faire le relais de vos programmations et de vos projets. En tout cas, merci beaucoup, Samuel. Merci. Et on va passer... à Tess, jeune chanteuse de Saint-Chély, c'est notre liaison. Alors intéressante, mais avant de parler de Tess, peut-être écoutons-la. Donc Tess, dans Jusqu'à quand ?
On nous prend vraiment pour des cons. Mais jusqu'à quand? Mais jusqu'à quand? Et moi j'entends.
FM Le Mag.
Voilà, nous voilà de retour donc avec notre dernière invitée, Tess.
Bonjour.
Bonjour Tess. Alors avant de vous présenter, peut-être Ludo, je vais laisser la parole à Ludo, qui va essayer de nous dresser un petit peu un portrait.
Et oui, parce que je me suis renseigné sur Tess. Tess, qui est une chanteuse indépendante de 18 ans à peine, qui est élevée entre la chanson française et notamment Jean Ferrat par sa mère et la musique africaine par son père. Elle passe ses années au collège à prendre des cours de chant et en dehors des heures d'enseignement. Le lycée va lui permettre de jouer en tant que comédienne dans 3 œuvres cinématographiques, 2 moyens-métrages et un long-métrage fantastique. Elle travaille depuis un an sur un album composé de 10 titres produits par son ancien professeur de cinéma, auteur-compositeur Sandy Blanco qui est là. Bonjour Sandy.
Bonjour.
Le personnage de Tess démonte soigneusement dans ce premier opus le cliché de la jolie chanteuse qui n'a rien à dire. Pour elle, l'impossible d'ignorer le désastre dans lequel le monde sombre inexorablement. Sa démarche artistique illustre parfaitement la formule de Samuel Beckett qui est « Quand on est dans la merde jusqu'au cou, il ne reste plus qu'à chanter ». C'est ça Tess?
C'est ça. Alors juste un truc, c'est qu'il y a 11 chansons dans l'album.
Voilà. Ah,
on en a rajouté une dernièrement. Voilà.
Dernièrement, on l'a rajouté, je m'excuse.
Voilà. C'est pas grave. Donc, Tess, on peut se tutoyer? Tu es originaire de Lozère, c'est ça?
Oui, Saint-Chély-d'Apcher, Barabande encore.
Parce que bientôt, tu pourras plus, elle sera tellement connue que...
Mais ouais, elle répondra plus à nos demandes après.
Oui.
C'est bon de dire oui.
Alors, Tess, vous êtes vraiment dans la merde?
Ah, moi...
Pour chanter comme ça...
Oh ben on y est tous un peu quand même.
Oui, ça c'est sûr, voilà. Actuellement. C'est un petit peu la situation. Vous êtes originaire de Lozère?
Oui, Saint-Chély-d'Apcher. Encore une barabande.
Encore une barabande, voilà. Mais c'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui, je sais pas, il y a un truc.
On est envahis. Hein.
Alors en fait, c'est un premier album pour vous? Qu'est-ce que
oui,
c'est
C'est un premier album.
Tess, ouais. c'est un hommage au film de Roman Polanski?
Alors, un peu oui, j'ai vu le film de Polanski que j'adore. Voilà. Mais c'est aussi par rapport à une chanson de Raphaël, parce que j'aime beaucoup Raphaël. Et donc voilà, c'est une chanson que mes parents aiment beaucoup et voilà, un prénom que j'aime bien. Voilà, c'était plus côté affectif quoi, du prénom.
D'accord. Voilà. Alors vous avez fait vos gammes, comme on dit, où?
Alors j'ai fait une chorale au collège qui, bon, enfin bon, ça reste des souvenirs un peu vagues et pas forcément positifs, mais bon. Et après, je suis arrivée au lycée et j'ai fait l'atelier cinéma. Donc pendant 3 ans avec Sandy Blanco, qui était prof de cinéma, prof de français aussi, que j'ai eu en français donc. Et donc on a commencé à faire des films, puis on a parlé de musique, on a commencé à faire quelques chansons pour le JTL. On a un JTL, un journal télévisé au lycée. Donc voilà, on a commencé à partager un petit peu musicalement ensemble avec d'autres élèves. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait un petit peu les mêmes influences musicales. Ouais, enfin lui, c'est plus large que moi, mais bon. C'est vrai qu'au niveau de la chanson française, on aime beaucoup Goldman, Berger, voilà. On est un peu...
C'est bien.
Oui, c'est bien.
Et qu'est-ce qu'en pense Sandy?
Oui, c'est exactement ça. Donc non, mais j'ai vu qu'elle avait une belle voix, un bon potentiel. Et j'aime pas, moi, me mettre trop en avant, en fait. Voilà, je trouve pas mon physique extraordinaire. Donc j'ai pensé qu'elle interpréterait bien mes titres, en fait. Et l'idée, en plus, m'est venue après de casser vraiment le cliché de la chanteuse, parce qu'on en voit tout le temps, hein, qui sont très jolies, mais qui n'ont rien à raconter. Qui racontent leur quotidien, bon, c'est pas très... Moi, ça m'intéresse pas du tout, donc... Et la tradition de la chanson engagée s'est perdue. Depuis Greno, il est parti. Et puis d'autres hein, interprètes, elle est au Ferré, tout ça. Ouais.
Noir Désir, non ?
Noir Désir, bien sûr. Mais alors voilà, l'idée, c'était en fait de ne pas faire de... Comment dire ? Nordésir, c'est du rock.
Oui, tout à
soit
fait.
Soit on fait du rock, soit on fait du métal. Moi, j'adore Rage Against the Machine, par exemple, c'est du métal rap. Mais en chanson française, en fait, populaire, qui touche tout le monde, il n'y a rien d'engagé, il n'y a plus rien maintenant. Donc moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'était de faire chanter certainement Tess sur des textes un peu politiques.
Alors, Tess, en fait, c'est la chanteuse avec cette voix particulière qu'on aime bien entendre. Mmh. Et donc, vous, c'est les paroles ?
Les paroles et la musique.
D'accord, donc vous faites la création. Donc. Et ces textes viennent d'où ? Comment vous faites pour écrire pour la chanson ? Parce que vous n'êtes pas un spécialiste de...
Non.
De la chanson française.
Non, je suis un citoyen, comme tout le monde d'ailleurs. Ben voilà, en fait, c'est venu. Ben, j'écris des chansons depuis que j'ai 15 ans, à peu près. Enfin, je commençais le piano à 15 ans, un peu tardivement en fait. Je suis autodidacte, donc j'ai toujours aimé les personnages à la marge en fait. Les maudits notamment. Et je trouve que c'est. À force de se poser pas mal de questions, on s'interroge sur l'actualité. Et des fois, on va chercher nous-mêmes en fait l'actualité. On se rend compte que des fois, on se fait un peu avoir par les grands médias. Je parle des chaînes télévisées, ce genre de choses en fait. Et l'idée, c'est de faire de l'artiste en fait, de lui donner un rôle en fait, d'ouvrir un peu les consciences. L'auditeur puisse en fait réfléchir à travers les chansons et non pas passivement se divertir. Parce que se divertir, on fait ça toute la journée. Quoi. On allume la télé, on se divertit.
Ouais, pas trop au boulot. Hein,
Ouais, j'imagine.
Il y a une réflexion au préalable entre vous deux, parce que je suppose que pour chanter des paroles, il faut y adhérer. Ouais. Ouais. Vous réfléchissez sur les thèmes, sur ce que vous allez chanter ensemble.
Ce qu'il y a, c'est que... Alors moi, à la base, j'étais pas très... c'est vrai, il faut le dire, j'étais pas très axée politique ou choses comme ça. Et l'ayant en prof de français et en prof de cinéma, c'est vrai qu'il nous montre toujours des films... un peu
engagé,
des artistes à la marche, voilà, il nous fait connaître tout ça. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc c'est pour ça que j'ai accepté de chanter ces chansons, parce que d'accord, j'ai 19 ans, je ne connais pas forcément tout le thème de l'actualité politique, tout ça. Mais vu, c'est agréable.
Que ça vous ouvre l'esprit, voilà. Ces chansons. Oui,
ouais, voilà, c'est ça. C'est agréable de se sentir un peu, je ne sais pas, après, quand on regarde une émission télé, on se dit, putain, mais là, il me manipule peut-être. Enfin voilà, il y a une certaine manipulation en permanence. C'est vrai que Sandy essaie de nous ouvrir les yeux là-dessus, sur ce qu'on veut
c'est
nous faire penser.
Avoir un esprit critique,
voilà,
c'est ça ?
Avoir un esprit critique. Et moi, c'est ce que j'aime bien. J'ai bien aimé développer ça et j'aimerais bien que peut-être ça peut aider d'autres personnes. Moi, je me sens bien comme ça et voilà. Ça m'a aidé, quoi.
Une dernière chose, en fait, juste, je voulais rajouter qu'en fait, la chanson engagée, c'est vraiment. Je trouve respecter le public. C'est pas.
Ça veut dire quoi pour vous là ?
La chanson engagée, c'est plus la chanson qui fait réfléchir sur pas que l'actualité, sur la vie en général, qui remet un peu les choses.
C'est pas forcément de dénoncer.
Pas toujours de dénoncer.
La position des banques aujourd'hui, non ?
Pas toujours, mais oui aussi.
Mais ça peut.
Ah oui, bien sûr.
Mais c'est peut-être aussi plus difficile parce que c'est prendre parti. Tout le monde n'est pas d'accord sur un thème donné. Donc
exactement. Et c'est d'ouvrir le débat, justement. C'est vrai que moi, je suis tout à fait d'accord pour que quelqu'un me rentre dedans en me disant non, c'est pas ça, évidemment. Tout à fait, tout à fait. Au contraire. Mais le but, c'est qu'au moins les gens puissent en parler, puissent parler entre eux. Et non pas qu'ils soient divertis ailleurs, détournés de leur problème, quoi. Parce que c'est pas en se détournant de son problème qu'on va arranger les choses, en fait.
Donc il y a une chanson sur le catch à Saint-Chély.
Voilà, c'est ça. Alors, on va sortir un album en décembre. Et là, en revanche, dans les 11 titres, il n'y a pas que des chansons engagées, bien sûr.
Donc, cet album, en fait, Tess, sortira dans les bacs quand ?
Normalement, au mois de décembre, ouais. On a quelques trucs à finir encore. Et puis, normalement, ce sera bon.
Il est produit entièrement par vous ? Par une maison de disques ?
Voilà, par Sandy.
Il est autoproduit.
D'accord, autoproduit, Sandy Blanco. Mmh. C'est ça ? Production ?
Yes.
Ça sonne bien.
Vous avez un studio, vous êtes allé quelque part parce que le son est quand même bon. Ouais.
Bon, hein. Oui, on est allé au Z Studio à Narbonne, qui est un ami, à une chanteuse que je connais bien, pour qui j'écris des titres déjà, d'un groupe narbonnais qui s'appelle Une Rose pour Émilie, qui fait des chansons assez rock. Et donc voilà, j'ai travaillé avec lui sur cet album. Il est guitariste, il s'appelle Antoine Miquel, donc il est guitariste, bassiste aussi. Donc voilà, c'est quelqu'un de très sympa et qui travaille très bien. Donc, voilà.
Vous avez mis combien de temps à le monter, cet album ? 11 chansons, je suppose que ça a dû prendre...
Alors en écriture, ça a pris pas mal de temps. J'ai pris même des vieilles chansons qui étaient dans un tiroir, parce que c'était des chansons souvent pour les filles.
Ah, du réchauffé, quoi.
Non. Ouais, Sandy, c'est parce que je suis un garçon et que j'avais fait... Non, à l'époque, j'avais fait des chansons.
Les chansons engagées de Sandy Blanco.
De 1980, à quand la gauche au pouvoir,
ouais.
Il chante ça.
C'est ça. Non, même pas la gauche. Mais... Non, d'accord. Non, mais si elles avaient été vraiment dépassées, en fait, aujourd'hui, j'aurais préféré, parce que ça voudrait dire que le monde monde y va mieux, mais non, apparemment, ouais. Non. Donc, l'idée, c'était des chansons, en fait, pour les filles. Et bon, comme je ne pouvais pas, moi, les chanter, je les ai ressorties. Il y en a 2-3, je crois, sur les 11, ça va.
Alors, jusqu'à quand? Il y a aussi des chansons qui portent une connotation un peu hispanisante.
Oui.
Pourquoi? Pourquoi ce choix-là?
Pour que se vayan todos.
Yes.
C'est pas vraiment hispanisant.
Yes,
c'est
si.
si plutôt. Ça le fait pas. Non, que se vayan todos, c'est par rapport à c'était en Argentine, je crois, en 2001. Il y a eu une révolution. Voilà, et les Argentins répétaient cette phrase que se vayan todos, qui s'en aillent tous en fait. Et Sandy a fait une chanson là-dessus. Avec un refrain espagnol, c'est vrai, mais.
Mais que se vayan todos, c'est pas mal. Hein, qui s'en aillent tous, c'est une bonne idée, je trouve. Parce qu'en fait, c'était l'idée de reprendre en fait les slogans de la révolution argentine pour nous, quoi, puisque ça marche aussi partout, de toute façon, en Grèce où vous voulez, voilà, il y a pas de problème en fait.
Oui, c'est un peu international.
C'est international, finalement.
C'est bien.
Voilà.
Est-ce que vous avez déjà des dates pour promouvoir cet album sur scène?
Alors, justement, on est en train de.
Alors, Samuel me fait un grand signe. Oui, Samuel, tu fais une proposition?
Tu peux intervenir.
Hein, oui, ça serait bien de passer au ciné-théâtre.
Non, mais avec plaisir.
Avec plaisir. Ouais.
Non, mais ça peut être justement, c'est un peu l'idée de ce mag. C'est de faire en sorte qu'il y ait des liens aussi un petit peu entre à la fois les diffuseurs et puis les créateurs. Peut-être de trouver un moyen pour que, effectivement, c'est quand même assez rare aujourd'hui qu'il y ait des gens qui s'engagent comme ça, qui écrivent, qui jouent, qui interprètent. C'est peut-être aussi le rôle d'un programmateur et d'un diffuseur sur un lieu de faire la promotion de ce qui s'y passe aussi.
Non, oui, puis de faire l'apprentissage de la scène dans des bonnes conditions, avec un régisseur qui pense aux lumières, une bonne sonorisation, un bon placement sur scène. Et ensuite, c'est les prémices pour pouvoir faire des tournées ensuite dans de bonnes conditions.
Voilà, nous, on constitue en fait un groupe. Ça sera vraiment une mise en place en fait assez originale parce qu'en fait, on travaillera aussi sur bande parce que j'ai des musiques très, très riches, très symphoniques parfois. Parfois fantastique, donc il y aura un percussionniste, un guitariste et moi au piano, et donc Tess évidemment.
Donc 5 sur le plateau, c'est ça?
2, 3, 4, ça fait 4.
4 plus le régisseur.
Oui, plus le régisseur.
Enfin, et, 4 sur le plateau et le régisseur.
Et comme je suis prof de cinéma et que bon, j'adore le cinéma, en fait il y aura beaucoup de jeux sur les vidéos, en fait. Donc ça sera assez pas mal interactif et tout. Donc,
on verra Tess en vacances. Tess voilà. À l'école,
à la plage,
Tess à la plage.
Après Martine, Tess.
Ça change.
Super.
Bien, donc on va essayer essayer de vous suivre peut-être un petit peu, hein, savoir un petit peu ce qui va advenir de Tess et puis de Sandy Blanco. Mm-hmm. Donc est-ce qu'il y a derrière il y a une association, comment on peut essayer d'avoir un petit peu votre parcours
ou un site internet, un blog.
Oui.
Alors, on a une page sur, sur Facebook, donc qui s'appelle Tess, hein, tout simplement. Sinon, on a un site internet et l'adresse, c'est
tess-online.com.
Voilà.
Tess-online.com. Voilà.
D'accord, et on peut écouter, il y a la bio, il y a des extraits, c'est ça?
Voilà.
En fait, on mettra les titres vraiment quand l'album sera sorti, parce que... Voilà.
Paroles des chansons.
Chaque semaine, il y a un texte en entier qui est mis quand même.
Okay. D'accord, puis je pense que nous, on lancera un petit jeu peut-être pour faire gagner la sortie de l'album, quelques albums pour ceux que ça intéresserait.
Bah, c'est super.
On peut qualifier votre style de quoi en fait? Donc, on parlait tout à l'heure que c'est pas du tout rock'n'roll, bon, on l'a écouté un petit peu, comment vous qualifiez?
En fait, il est trop différent, enfin il y a beaucoup de chansons différentes, il y a un rap dedans, parce que comme je vous disais, j'aime beaucoup Rage Against the Machine aussi, mais il y a un rap, je me suis amusé à faire ça. C'est de la pop, moi j'appelle ça de la nouvelle scène engagée. J'appelle ça comme ça, j'en sais rien, mais ça résume un peu. Musicalement, j'aime pas me faire enfermer dans quelque chose, donc si je peux faire de la variété, je fais de la variété. Si j'aime faire du rock, je fais du rock, et si je fais du rap, je fais du rap. Voilà. Il y a même un deuxième album qui est prévu, et il y a un autre rap dedans qui est moins rentre dedans que Propaganda, le titre qu'il y aura dans l'album. Mais voilà, donc si je dois faire du flamenco, je ferai du flamenco.
D'accord, en fait, c'est lié à votre histoire, à ce que vous écoutez, ce que vous aimez.
Voilà, c'est ça. C'est pas s'enfermer dans quelque chose.
Et vous allez voir beaucoup de concerts ou pas, Tess?
Moi, oui, j'essaie, ouais. Ah, ouais. Mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans une grande ville, donc bon, entre Clermont, Montpellier, j'essaie. Je vais aller voir des trucs assez variés.
Parce que c'est important, d'écouter pour créer, et puis même pour ton univers musical, pour toi, je pense que c'est...
Moi, j'aime beaucoup que ce soit assez varié, de voir des choses différentes.
Bon, alors, à quand la Starac?
Alors là, on est plus cohérent.
Voilà. Ça va pas le faire.
C'est la question piège.
Hein. On n'est pas engagé dans la Starac.
Non, mais parce que on dit toujours que en fait, on peut de l'extérieur faire changer le monde, mais aussi de l'intérieur. Donc, tu peux aller à la Starac et dire non, mais écoutez, vous avez rien compris. Écoutez mes chansons, très engagées. Et puis, comme ça, vous allez. Non.
Je sais pas. En fait, il y a eu une expérience. Il y a un bouquin qui s'appelle Divertir, c'est contrôler, qui est très intéressant. Qui expliquait qu'en fait, il y a McLuhan, je crois, j'ai le bouquin, mais un scientifique américain a fait une expérience. En fait, il projetait de deux manières différentes, en fait, sur un écran blanc, de manière indirecte, comme au cinéma, le même film à un public, et il le projetait après face au public. Comme le public avait la lumière en fait devant, comme à la télé en fait. Et ils se sont rendus compte que en fait, quand la lumière est face au public, comme à la télé, en fait, c'est la partie droite du cerveau qui réagit, c'est-à-dire en fait, c'est l'émotion. Et donc la réflexion, ben, elle est à la poubelle en fait. Et donc déjà, le cinéma, ça fait beaucoup plus réfléchir que la télévision, c'est ça que je voulais dire en fait. Et donc, comment vous voulez faire réfléchir ? Non mais c'est scientifiquement prouvé, c'est intéressant. Et comment vous voulez faire réfléchir des gens à la télévision ? Ça va être difficile à mon avis. La télévision, c'est un grand supermarché.
Déjà, par des émissions intelligentes, déjà.
Oui, c'est difficile d'en trouver.
Vous avez raison, écoutez la radio.
Voilà, écoutez 48 FM. La radio, c'est déjà mieux, parce qu'on prend de la distance, et ça, c'est bien.
Mm. Ouais, puis on peut faire d'autres choses en même temps, et ça occupe l'esprit, et voilà, ça nous nourrit.
Hein. Exactement.
Mm. Puis on se donne des images aussi, on se représente le monde, donc ça, c'est intéressant. Mm. Voilà, à travers des voix, à travers des sons, à travers des choses comme ça, donc c'est intéressant. Bon, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage et puis une belle réussite dans ce milieu qui est compliqué quand même, il faut le dire. En tout cas, on se fera l'écho, nous, de votre voix, de vos textes, Monsieur Sandy Blanco.
Merci beaucoup.
C'est beaucoup de courage. On essaiera de vous réinviter
à
la sortie de l'album pour faire un petit buzz dessus. Voilà. Merci. Et puis, on va se quitter donc ce magazine, qui sera rediffusé jeudi à 18h sur cette même antenne. Vous pouvez trouver aussi le lien sur 48fm.org pour réécouter l'émission si vous le souhaitez.
D'ailleurs, avant de se quitter, j'en profite pour annoncer qu'il y aura un spécial Théma demain à 12h30, rediffusé vendredi à 18h30, avec l'interview de Moulay Toutouin Aïdana, c'est le secrétaire au développement de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. C'est un cher confrère journaliste malien qui va nous parler un peu de la situation des radios. C'est vraiment intéressant, donc c'est demain mercredi 12h30, vendredi 18h30. Et ce soir, la deuxième émission de Les Doigts dans la Reprise, où on va entendre des groupes jamaïcains qui reprennent les Beatles de 20h à 21h.
Super, donc n'hésitez pas, continuez de nous écouter et aussi si vous le souhaitez d'y participer. On va se quitter avec un dernier petit extrait de Tess. Hein.
Presque le silence, c'est ça, Tess ?
C'est ça.
Allez, mais c'est parti. Merci à tout le monde.
Merci à vous.
Merci.
Ces murmures à peine audibles, ces fêlures imperceptibles, ces corps dans le vent qui danse, c'est presque le silence. Tous ces mots tapis dans l'ombre, ces âmes au milieu du nombre, ces visages qui s'avancent, c'est presque le silence. Qui d'autre entendra ces songes ? ces regards qui se résignent, cet espace entre les lignes, ces non-dits depuis l'enfance, c'est presque le silence, et ces voix qui se sont tues, ces cœurs qui ne battent plus, ce vide après l'existence, c'est presque le...